Les échos de la toundra! De la lointaine terre de Baffin, au-delà du Québec, dans le nord du nord, d'ici dans le domaine de la toundra sans fin, salutations, congrégation d'Ars Macabra et du souterrain! Dans le ciel nocturne s'élève une autre lune noire, une nouvelle lune croissante. Et pour cette fois, cette nuit même du 16 août 2023, il s'agira d'une micro-lune, soit le point de l'orbite du satellite qui l'apportera à son éloignement le plus dramatique de la Terre, la faisant pour autant paraître plus petite qu'à la normale, mais aussi minimisant sa présence et ses influences. Cette lune si sombre et sinistre comme nulle autre est alors particulièrement puissante et il nous sera donc judicieux, ô disciples des véritables arts macabres, d'en profiter dans le but de s'assurer de terribles bénéfices occultes. Rappelons-nous de la sagesse des anciennes traditions païennes et aussi celles néo-païennes plus contemporaines et reconnaissons de le concret que cette phase noire de la lune correspond au danger de l'obscurité et à la menace de nos pires terreurs. Conséquemment, elle est la plus propice à l'exploration de l'inconnu, intérieur comme extérieur, chose que seul le plus hardi des individus est non seulement capable de, mais déterminé à entreprendre. Des individus comme nous, les adeptes du culte black metal, qui sommes initiés à ces mêmes énergies chaotiques et chtoniennes, nées de l'abîme universel depuis la noirceur du monde, des tréfonds de même chacun son âme. Laissez-moi alors vous fournir, dans le véritablement pratique, un moyen pour vous d'accomplir une monstrueusement menaçante, totalement enrichissante contemplation du noir primordial. Et ce, pour ces magnifiques soirées estivales réchauffées par le mystère tourbe de la Terre. Oyez les cadavres les plus true, les plus braves, que je vous enseigne les sombres mystères du Outil-Satan. Il s'agit d'une méthode que ce que nous pourrions très adéquatement définir comme une technique méditative, développée spécifiquement par les cultures scandinaves païennes et celles germaniques qui les ont précédées. Le terme en soi provenant des mots norrois, seta, soit être assis et outil à l'extérieur. Mais plus exactement, il s'agit d'une quête de vision sauvage, celle du chaman nordique, qui autrefois était pratiqué dans le but précis d'acquérir la sagesse spirituelle auto-initiatique, et ce, tout en accomplissant une épreuve physique purificatoire. Pour le plus expert, l'outil s'est approuvé. Peut également se servir de techniques nécromantiques, donc divinatoires. Je vous explique. Mais de prime fermement d'abord, je me dois de bien vous expliquer le contexte culturel autour de cette pratique. Le chaman, comme fort probablement vous le savez déjà, est un rôle, une occupation vraiment qui date de la plus lointaine période préhistorique de l'homme, et qui est aussi la plus universelle, retrouvée dans toutes les sociétés traditionnelles aux quatre coins du monde. Les clans de chasseurs et de cueilleurs, y compris ceux d'aujourd'hui, ont toujours eu besoin d'intermédiaires entre le monde humain ordinaire et les autres êtres qui agissent ou se font agir par la nature et ses forces. Et nuance importante, le monde des esprits n'est pas au-delà de la sphère naturelle, comme selon les croyances judéo-chrétiennes, mais en est partie intégrante, et son cœur battant en fait. Et c'est l'homme en revanche qui se trouve à l'extérieur, et donc dans le besoin de rejoindre cette essence vitale du monde. Or, Ce n'est que le chaman, l'individu excentrique et exceptionnel, choisi par le destin et manifestant l'ambiguïté animale humaine, qui est capable d'agir en tant qu'intermédiaire et communiquer avec les forces spirituelles et élémentaires, pouvant même parler leur langage, pouvant même les voir et les entendre et les toucher, ayant des capacités sensorielles supérieures lui permettant de s'entretenir avec eux, de visiter leur domaine et de subvenir à leurs besoins. Ainsi, le chaman, accomplissant des voyages entre ces mondes dans un état de transe ou en discernant des signes et des messages parmi les phénomènes naturels, pouvait venir en aide à sa communauté humaine, améliorer ses pratiques personnelles ou tout simplement en ajouter au savoir collectif intergénérationnel. Il s'agit véritablement de la plus ancienne tradition spirituelle de toute l'humanité et une que, pour vous franchement dire, je connais très bien en raison de mes années en Corée du Sud, de mes études et expériences académiques, mais surtout de mon vécu ici, en toundra inuit. Les anciens clans germaniques et plus tard norse avaient aussi leur chaman, qu'on appelle Sifr. Une distinction importante, le terme renvoie à une classe de pratiquants à part et n'est catégoriquement pas l'équivalent du Gothi et du Gidia, soit prêtre et prêtresse respectivement, qui sont des rôles rattachés plus aux aspects sociaux et politiques de la spiritualité collective. Au contraire, le Sifr est un errant, n'ayant point d'attache à un établissement, au point où certains experts déduisent que ses pratiquants constituaient une société secrète indépendante. Essentiellement et initialement, ce sont des femmes qui étaient les principales pratiquants du Sifr dans les anciennes sociétés nordiques. Une qui pratiquait cet art était plus proprement connue sous le nom de Sifrkona, ou plus fameusement Vulva, un terme spécialisé qui veut dire prophétesse. Pour les hommes, ils étaient soit prêtres ou pratiquants de Galdr plutôt, c'est-à-dire des arts occultes. Mais comme le témoigne des reproches que l'eau qui dirige envers Othin dans le Lokasena, un poème de l'état poétique, l'homme qui oserait apprendre et pratiquer le Sifr est sûrement un efféminé et un sodomite. Et puisque le Alphafer est très ouvertement un pratiquant du Galdr et du Sifr, ayant dans les mots du dieu de la discorde battu le tambour comme une sorcière, cela a fait absolument de lui un pervers. Toutefois, avec le temps, possiblement avec l'évolution des mythes d'Othin autour de son rôle en tant que rang des neuf mondes, les Sifrmen sont apparus de plus en plus, surtout en Islande. Si les femmes Sifr pouvaient retenir la déesse Freya comme modèle et matriarche, en dépit des tabous, le père des dieux lui-même était un modèle à suivre et à reproduire. Là, malgré son caractère marginal, la tradition du Sifr était très importante et influente durant l'époque pré-chrétienne, comme le documente plus anciennement des textes de l'époque de l'Antiquité romaine, comme le traité de Germania de l'historien Tacite, complété aux alentours de l'an 98, et plus récemment et clairement, les sagas islandaises du 12e au 14e siècle. La tradition du Sifr est ancienne et continue, et profondément ancrée et répandue parmi les grandes diversités des sociétés germaniques et puis scandinaves. De ses origines jusqu'à la période de leur christianisation et peut-être même après, vous l'imaginez. Et comme le valide les découvertes archéologiques telles celles de l'enterrement du bateau d'Osberg, le Sifrman et la Sifrkona occupaient un rôle d'importance première. Justement, dans la dite chaloupe viking, enterrée sur un grand monticule qui date de l'an 834, montée à ce qui est aujourd'hui Vestfold en Norvège, y avait là été reposées deux femmes, l'une âgée de 50 ans et l'autre d'environ 70 ans, entourées de somptueux objets funéraires indiquant leur haut niveau. Car il y avait été déposé des objets inhabituels tels que des bâtons à tête d'un hochet en fer, soit un instrument rituel pour accompagner la transe. Donc, au contraire de ce contrefond, on avait pensé au 20e siècle, ici ne sont pas des membres de la royauté, mais des chamans. Leurs méthodes impliquaient une variété de techniques occultes, la constante étant que celles-ci étaient moins basées sur des structures définitives et des connaissances établies, des rituels complexes avec toutes sortes d'accoutrements cérémoniaux, un entourage et un emplacement sacré, plus sur l'exercice de l'intuition, y compris au niveau de la créativité, de la spontanéité et même de la transgression. Une comparaison serait par exemple l'interprétation des runes avec chacun son sens associé et l'interprétation des vols d'oiseaux qui est vraiment plus subjective comme technique. Encore, la création de talismans avec des symboles préétablis versus la découverte d'objets naturels qui deviendront de puissantes amulettes. Cette intuition sacrée, elle devait être exercée, ou plutôt éveillée. Et la technique parmi les plus préconisées pour y arriver était justement celle de la OTS-7. Laissez-moi vous la présenter selon ma compréhension et surtout selon ma pratique personnelle. En somme, l'outil SETA consiste d'une méthode méditative nocturne extérieure, une dont l'objet est une introspection dirigée et stimulée par les vraies forces de la nature. Cela afin de recevoir une vision ou d'effectuer une divination. Traditionnellement, l'outil SETA commence juste avant le coucher du soleil et se termine lorsque le soleil se lève à l'horizon. Mais il peut être convenable d'écourter ou de prolonger la durée selon les circonstances et selon vos intentions. Toutefois, dans le but d'encourager sa propre discipline, il est important de l'établir et de la respecter en toute rigueur. Puis, on se choisit un emplacement complètement à l'écart des humains et de ses activités. Un endroit idéalement qui est dans un habitat vierge, comme une forêt, un désert, sur une colline ou une montagne, une rive ou, possiblement pour ceux qui habitent des espaces urbains, dans un cimetière. Sage de bien choisir l'emplacement. L'endroit doit être sécuritaire après tout, retenant que plus l'espace est sauvage, plus favorable il est, certes, mais pour autant, plus importants y seront les risques. Dans les deux cas, il est alors toujours préférable de travailler selon ses limites approximatives, autant au niveau physique que spirituel et psychologique. Le but est après tout de vivre une véritable épreuve, mais une qui va nous rehausser les capacités spirituelles et personnelles, non pas nous frustrer, nous accabler ou nous nuire. Il faut réfléchir à bien des détails, comme si l'éthique de serfins infectés par la maladie de Lyme se trouve dans votre région, dans lequel cas il serait nécessaire d'apporter un insectifuge dans le cadre de votre préparation. Finalement, il faut comprendre que le jeûne fait de facto partie intégrante de l'expérience, mais que l'eau serait peut-être de quoi apporter. Étant donné son caractère spirituel, voici le point le plus important. Il est primordial de clarifier son objectif avant même d'entreprendre une session. En particulier, ce type de rituel peut être utilisé pour se préparer spirituellement à une transition, à une cérémonie ou à encore un événement d'importance. Ou bien pour retrouver son équilibre intérieur lorsque la vie est devenue confuse, pour obtenir des conseils d'un ancêtre, pour s'inspirer après une maladie ou une situation traumatisante, pour se reconnecter à ses esprits ancestraux après un long voyage, ou pour renforcer ses liens avec ses esprits familiers, ses enseignants spirituels et, bien certainement, avec la nature elle-même, la source de tout. Et il faut le noter, plus ambitieuse est l'intention, plus intense et donc plus longue est la session. Une quête de vision ou 17 ans, par exemple, peut bien durer plusieurs jours et être singulièrement exigeant, avec une préparation à point, une intention vigoureuse, constante et précise. Alors là, il serait possible de vivre une expérience puissante au cours même d'une seule nuit ou sur plusieurs. Puisqu'une session de 17 ans consiste à passer la nuit entière dehors, soit en s'exposant au froid nocturne ainsi qu'aux insectes nuisibles comme les moustiques, il est recommandé de porter une cape lourde et un capuchon suffisamment grand pour qu'on puisse complètement se cacher le visage, et de s'asseoir sur un tapis, un matelas ou une couverture de laine. Afin d'assurer sa sécurité spirituelle, son âme est apparemment exposée. On doit préalablement s'entretenir et évoquer ses esprits protecteurs afin d'être protégé de toute aberrante non bénéfique. Les protecteurs du cater peuvent être une filgia, un animal de pouvoir, une dis, un esprit protecteur féminin ou un esprit ancestral familier. Dépendamment d'où la session se déroule, certains esprits des lieux doivent être également contactés, auxquels on présente une offrande afin qu'ils permettent et autorisent le rituel. Ici, il ne s'agit pas nécessairement des esprits ancestraux de soi, mais du territoire. Alors, prenons garde à reconnaître la terre que nous habitons, de sorte à bien la connaître. Comme ici au Nunavut Inuit, j'interpelle moi les Iraïtes sur certaines montagnes, ou Takanakapsal, près de la mer, ou Silaopinois, lors des nuits venteuses ou orageuses. Nos ancêtres autochtones, tout comme nos ancêtres germaniques, comprenaient intimement que ces êtres étaient des gardiens de la terre et que toute sagesse possible, d'abord et avant tout, leur appartient, car ils sont la mémoire collective transcendantale de tout ce qui bouge et fait bouger. Tâchons de les imiter et de prendre soin de les considérer, ces esprits, comme indispensables à l'achèvement de toute entreprise spirituelle et à l'assurance d'y trouver une existence prospère et bonne. Une fois prêts à arriver à l'endroit sélectionné, on mène le rite préparatoire et purificatoire planifié. Ceci peut inclure des restations aux esprits, la combustion rituelle des substances odorantes, la présentation d'offrandes matérielles aux esprits, aux bêtes et aux plantes, etc. Puis, on s'assoit avec son Sith Staff, son bâton chamanique, et quand l'envie se manifeste, on entre en communion avec notre environnement vivant, murmurant et chantant de concert avec les éléments naturels, imitant les oiseaux, les animaux, même les éléments, comme le sifflement du vent, le bruissement des plantes et des feuilles, le ruissellement de l'eau. Et si nos capacités le permettent, on répond aux esprits transcendants de la nature qu'on appelle l'Andavaidur. Ces esprits de la terre, du ciel et des eaux, censés protéger et promouvoir la vitalité des lieux où ils vivent, sont indubitablement une profonde source de sagesse. À cet égard, rappelons-nous que s'asseoir et de s'immerger dans le monde de la nature pour épuiser inspiration et sagesse est à l'origine des chants des anciennes Volvas, comme le révèle le Kalevala, le poème épique finlandais qui contient un passage qui illustre parfaitement ce lien. Le froid m'a enseigné de nombreuses runes, la pluie m'a apporté de nombreuses poésies. D'autres chansons, les vents m'ont chanté. De nombreux oiseaux, de nombreuses forêts m'ont souvent chanté des mélodies en accord. Les vagues de la mer et les flots de l'océan. La musique des nombreuses eaux, musique de toute la création. Oh, des mains de fois, mon guide et mon maître. Pendant l'outil Seta, on peut également utiliser des chants chamaniques ou varvelocures pour réveiller son fort intérieur, pour rassembler les esprits utiles et pour entrer dans l'état de conscience chamanique. Une trance! Et aussi, on peut utiliser de simples instruments, principalement le tambour et la guimbarde. Et si on commence à prendre froid, on peut se lever debout et faire tourner autour de soi une rombe, un bull roar. Cet instrument primitif est parmi les plus anciens de l'histoire, qui produit un puissant vrombrissement. Ceci demande un effort considérable continu qui va réchauffer le corps, mais également qui épeureront les prédateurs et... le dit, les traditions stimuleront et évoqueront les esprits de la nature. On peut continuer à psalmodier, mais dans le but d'intensifier l'intention, voire de manifester son comble, on se concentre sur la description de ses expériences actuelles, bonnes et mauvaises, et l'expression de ses souhaits, tout en offrant aux esprits des incantations ou chants poétiques mémorisés, les submentionnés galdres. On alterne ces périodes de chant avec d'ambitieusement longues périodes de silence assis pour recevoir la sagesse des esprits et ressentir les liens qui se tissent avec l'invisible et le monde naturel. Et soit... pour ceci-là, parenthèse, je vous offre quelques conseils personnels en tant que pratiquant de longue, très longue date de la méditation bouddhiste du Zazen, ou méditation assise, telle que je l'ai apprise en tant qu'initié de l'école du Zen Soto. L'essentiel à comprendre est que l'esprit suit le corps comme la charrue le cheval, et par conséquent que la posture est la pierre d'assise de toute expérience méditative. On la choisit, soit avec les jambes croisées et un petit coussin sous les fesses, ou à genoux avec un petit banc qui laisse passer les pieds, et... oh, il reste, mais en portant une attention dynamique à l'équilibre, ce qui est plus facile à faire si la posture est droite, très droite, ni trop à gauche, ni trop à droite, ni trop par l'avant, ni trop par l'arrière. Visualisons une corde qui tire le coccyx vers le sol et la couronne de la tête vers le ciel, les bras à ses côtés et les mains sur ses cuisses, comme aux fines pendues au Yggdrasil, mais dans l'autre sens. Et on lâche prise de tout contrôle de la respiration, de l'attention, de l'intention. On observe tout simplement à partir des cinq sens, mais aussi avec la pensée. L'esprit étant un sens en soi qui est stimulé par les cinq autres. Et on se pose la question, qu'est-ce ceci? Mais qu'est-ce ceci devant moi? Qui suis-je? Avec tout cela, probablement des malaises vont se développer, mais au lieu de les soulager en bougeant, il est mieux d'attendre et d'observer. Parfois, il s'agit d'un malaise que l'esprit tout seul, pas le corps, à court de stimulus, manifeste de lui-même. Si le malaise toutefois persiste, la recommandation est de refaire un examen de sa posture, retrouver l'équilibre du haut en bas et du bas en haut, de prendre une autre respiration, une profonde, et de lâcher prise et de revenir à l'observation passive de son environnement, intérieur également. Au pire, allez, on bouge, on peut même se tenir debout pendant 5 minutes environ, puis on revient à sa posture initiale. Retenons toujours que l'objectif est de trouver un équilibre dans toute sa personne, du physique et du mental, comme du psychologique et du spirituel. On peut se permettre d'être suffisamment mal à l'aise pour ne pas s'endormir, mais pas de la sorte que le malaise devienne une douleur, puis une blessure ou génère une anxiété profonde. Il serait alors non seulement impossible de passer la nuit à poursuivre la session, mais l'homme se renfermera sur lui-même, empêchant toute vision d'être perçue ou même de se manifester. Pour la session comme telle, il se peut fort bien que rien ne se passe de majeur, outre qu'un apaisement de l'esprit, le développement de la discipline physique et psychologique, et, si on est fortuné, la visite intéressante d'un animal nocturne ou deux. ça ne peut paraître comme rien, hein, mais dites-le vous, c'est un excellent début. L'important ici, c'est de préparer le terrain spirituel intérieur, comme labourer la terre avant les semences et bien avant la récolte. Et il se peut également que cette préparation se transpose à la vie quotidienne, soit par le développement de son habileté d'intuition ou encore par l'approfondissement de la conscience. Improbable, mais très possible tout de même pour un débutant qui est doué, il se peut que quelque chose de préternaturel se manifeste. Une vraie vision. Dans lequel cas, c'est le destin qui interviendra. Et vous, qui recevrez cette communication spirituelle. Donc ici, en discuter dans le but d'être guidé, de se réorganiser, ne sert à rien. Mieux vous ouvrir à l'impensable en se laissant totalement ouvert au mystère des dieux. Le matin, après avoir remercié les esprits évoqués ainsi que l'espace naturel de soi-même, on va vouloir se rassasier de son jeûne. Mais doit manger que très légèrement et ne boire qu'une quantité d'eau suffisante pour se réhydrater. Puis, il est conseillé de prévoir du temps pour documenter l'expérience et les impressions et révélations reçues afin d'assimiler l'expérience à tête reposée à quelque temps par la suite. Finalement, quoique on retournera à la routine habituelle de sa vie bientôt, on doit se permettre quelques heures de temps ininterrompu, préférablement toujours en solitude, en faisant quelque chose de simple, pour pouvoir laisser l'expérience s'ancrer pleinement dans son être. Alors, voilà comment c'est fait. Mais voici mes tout derniers mots à ce sujet. Je souligne que même si ce rituel ou tissette est une technique reconstruite qui appartient plutôt à une époque longtemps passée révolue et qu'elle était spécifiquement utilisée par de véritables chamans dans le but de communier avec des esprits du monde naturel et les esprits des morts à des fins divinatoires, il demeure que la pratique nous est particulièrement vitale. Surtout pour nous, les adeptes du black metal sauvage et boréal. Nous le voyons, nous, plus que tous. Au 21e siècle, à cette ère apocalyptique, nous vivons universellement une profonde séparation physique, culturelle, spirituelle et existentielle avec la nature. Et comme notre noire musique infernale nous le rappelle, les forces refoulées de cette dernière, comme les besoins et savoirs ancestraux négligés qui sont pourtant nôtres, nous appellent du fond de l'abîme de l'oubli à redécouvrir cette relation et à retisser les liens entre notre personnel pouvoir primitif et primordial de la nature et de la nuée. Ainsi devenir autre que des esclaves de la modernité, de la civilisation, misérablement aux prises avec cette lumière humaine envahissante, emprisonnés entre les quatre murs du bien matériel artificiel, condamnés à l'asthénie et à la futilité existentielle. Nous pouvons s'en libérer. Littéralement prenant notre destin en main et se réinitier au véritable vrai dans une terrible communion totale avec notre monde, notre âme et surtout les obscurités qui les nourrissent. Oui, les cadavres, la nuit, la nature, notre noir héritage nous attend. Pour vous encourager à vous essayer à votre tour, je vous laisserai avec mon habituelle contribution musicale qui, pour parallèlement trouver un sombre pouvoir des choses terribles cachées, oubliées, négligées, sera une sélection du magnifique culte black metal des plus obscurs. Our Blood. formé en Espagne en 2005, le triumvirat a fait paraître tout un chef-d'œuvre en 2014, leur unique full-length Cool the Night of Meditation. De celui-ci, je vous laisse contempler les ombres, les vents et les sinistres bruits d'une nuit sans lune avec son premier titre, Spiritual Substantial Wisdom. Vous remarquerez, la qualité n'est pas supérieure, ni en plus vous apporter qu'un transfert numérique depuis YouTube. Hastie! Néanmoins, j'ai aucun doute du tout de la redoutable magie méditative Black Metal Dawes Blood et qu'elle vous pénétrera l'âme comme le froid jusque dans vos heures. Et enfin, je vous dévoile que mon choix de musique ambiante enfonce cette fois et seule d'un groupe que je suis depuis même avant mon initiation totale au black metal. Rear Hunter. Des fameux membres de la secte musicale chamanique chez Glass Throat Recordings. De son album rituel du même nom, vous avez entendu la ténébreuse transe cascadienne Moss and Memory. Salutations hurlantes, congrégation macabre! Et comme toujours, et toujours et furieusement, je souhaite que les ombrages d'enseignement à la toundra de la forêt de votre sauvage territoire chez vous vous effraient, vous bouleversent et surtout vous guident dans votre propre mystérieuse et mystifiante quête!